Sport à des champions. Toute l'actualité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque mercredi à 18h30, présenté par Maxime Balade sur RVR.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Radio Val-de-Rhin pour l'Aura des Champions, votre rendez-vous régional devenu incontournable une demi-heure pour traiter de l'actualité sportive de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez désormais l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Facebook Parlons Sport et sur le Twitter avec le hashtag ADC. Retrouvez également l'actualité sur notre site internet parlonsport.fr. Pour m'accompagner ce soir, le Twittos, comme d'habitude, vous l'adorez, c'est Charles Perrier. Salut Charles.
Salut Max, salut à tous.
Également avec nous ce soir, un autre Twittos bien connu sur Twitter, c'est Théo Place qui est avec nous. Salut Théo.
Bonsoir Maxime et bonsoir tout le monde.
On va passer tout de suite au sommaire de cette avant-dernière émission, l'Aura des Champions sur RVR. Et au sommaire de cette émission, on commencera avec les coups de cœur et les coups de gueule de nos deux chroniqueurs. Viendra ensuite le sujet de la semaine avec l'AS Saint-Etienne au cœur de toutes les discussions en ce début de semaine. Christophe Galtier devrait quitter son poste d'entraîneur à l'AS Saint-Etienne chez les Verts. Nous en discuterons. Est-ce bien ou pas? Nous en parlerons dans quelques instants. Nous finirons avec l'agenda et ce qu'il ne faut pas manquer de cette fin de semaine. Et puis on donnera aussi le classement des pronos de la Reda avec pas mal de surprises. On commence tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule. C'est parti pour l'avant-dernière émission de l'Aura des Champions sur RVR.
La radio qui vous ressemble, RVR.
Allez, on commence tout de suite cette émission avec les coups de cœur et les coups de gueule. Ça concerne aujourd'hui la petite balle jaune. Et on va commencer avec toi, Charles. Ça concerne le maestro Roger Federer.
Et oui, Roger Federer qui fait un formidable début de saison. Hein. Si on peut, ça fait un petit moment là qu'il a décidé de mettre sa saison entre parenthèses. Mais si on rappelle son début de saison, c'est 19 victoires, une seule défaite lors du deuxième tour à Dubaï. Trois titres notables. Hein. On se rappelle de cette formidable finale à l'Open d'Australie face à Rafael Nadal. Indian Wells avec Iba Wawrinka en finale. Et puis Miami, une nouvelle fois face à Nadal. Donc formidable début de saison. Et puis après Miami, il décide donc le 2 avril de suspendre sa saison pour se reposer et pour revenir en forme sur les prochains tournois. Et là, en ce moment, on est dans une période où on attend le communiqué de Roger Federer pour savoir s'il va ou non participer à Roland-Garros. Alors l'info devrait tomber, la décision finale devrait tomber le 10 mai prochain, Roland-Garros qui se déroulera du 28 mai au 11 juin. Et moi, c'est un coup de cœur pour Federer parce que c'est un début de saison formidable et j'ai envie qu'il revienne et qu'il vienne à Roland-Garros, qu'il fasse ce tournoi en France qu'il aime tant et qu'il fasse un super tournoi, qu'il éclabousse de toute sa classe ce tournoi de Roland-Garros. Et puis je profite un petit peu de ce coup de gueule pour parler de Nadal, qui fait lui aussi un très très bon début de saison, et d'avoir ces deux joueurs à Roland-Garros, si cela se confirme, ce serait formidable pour le tennis masculin.
Oui, Rafael Nadal qui a réalisé la décima, son 10e titre à Monte-Carlo, également à Barcelone, il gagne tout sur terre battue. Après, la question de
Rafael
savoir
Nadal,
si,
c'est deux titres cette saison, Monte-Carlo, Barcelone, comme tu l'as dit, trois finales, l'Open d'Australie, Acapulco et Miami, donc ça, 29 victoires, 5 défaites, c'est un très bon début de saison aussi pour Rafael Nadal, hein, qu'on a connu un peu en dedans lors des précédentes saisons, donc là, il revient assez fort cette année, même si Federer a fait de très bons tournois, et notamment deux finales face à lui, donc ce serait formidable d'avoir ces deux joueurs au top niveau à Roland-Garros.
Donc oui, on saura dans quelques jours maintenant si Roger Federer va participer à Roland-Garros, parce qu'il faut savoir que Roland-Garros, ça démarre dans moins d'un mois, c'est le 28 mai, donc on saura très rapidement si le numéro 1 à la race, hein, le classement sur l'année 2017, sera présent ou non. On sait que son principal objectif maintenant à Federer, c'est quand même Wimbledon, c'est le tournoi qu'il souhaite à tout prix remporter cette année, donc est-ce qu'il fera l'impasse ou non sur Roland-Garros, où il aura quand même un statut de favori, mais il y a quand même aussi d'autres joueurs qui peuvent être meilleurs que lui sur terre battue.
Surtout cette année, hein, c'est assez ouvert. Hein.
Oui, c'est ouvert avec la méforme d'Andy Murray et de Novak Djokovic. Théo, est-ce que tu penses que Federer doit participer à Roland-Garros cette année?
Est-ce qu'il le doit? C'est à lui de voir. Comme tu l'as dit, s'il a certains objectifs en tête, il faut peut-être qu'il les privilégie, mais on peut pas refuser de voir Federer à Roland-Garros. Ça serait simplement encore extraordinaire avec le début de saison qu'il fait avec Nadal pour des entre guillemets des anciens. On en avait déjà parlé tous les trois à une précédente émission avant l'Open d'Australie où Max t'avait annoncé que Nadal et Federer ne retrouveraient pas leur niveau. Et je pense qu'au final, tu t'es bien trompé. C'est la bonne surprise de cette année côté tennis.
Oui, non, mais c'est vrai. J'avoue que j'avais dit ça. Bon, après, c'est aussi conjugué à la méforme des deux cadors, hein, parce que Federer comme Nadal se hissent en finale sans vraiment rencontrer ni Murray ni Djokovic, qui sont éliminés avant. J'ai quand même hâte de voir des confrontations entre ces quatre hommes vraiment qui font le tennis mondial aujourd'hui. Mais on verra. En tout cas, on souhaite évidemment voir Roger Federer à Roland-Garros. J'en profite hein, qu'on parle des participations à Roland-Garros ou non, juste pour poser un petit peu le débat de Maria Sharapova qui est revenue il y a quelques jours au tournoi de Stuttgart, qui a été éliminée d'ailleurs par Kristina Mladenovic. On y reviendra tout à l'heure hein, sur la jeune française qui cartonne en ce moment. Est-ce que vous pensez que Sharapova puisse être invitée à Roland-Garros, parce qu'on le rappelle, elle a fait demi-finale à Stuttgart. Une finale lui aurait permis d'être qualifiée automatiquement pour les qualifications de Roland-Garros. Or là, elle a été battue en demi-finale, donc elle peut espérer seulement une invitation des organisateurs de Roland-Garros. Est-ce que vous pensez que Sharapova, qui a été pris pour dopage, qui a été suspendue pendant 15 mois, a le droit ou peut prétendre à une place d'invité à Roland-Garros? On sait qu'au-delà du sportif, parce que ça reste une très bonne joueuse, c'est surtout par rapport à l'image que renvoie à Sharapova. Un Roland-Garros avec Sharapova, au niveau des droits TV, de la publicité, c'est beaucoup plus attrayant que sans Maria Sharapova. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur ça?
Non, mais c'est exactement ça. Faut voir le côté sportif. Et là, c'est vrai que c'est assez compliqué d'inviter une joueuse qui a ces problèmes-là de dopage. Après, d'un autre côté, Roland-Garros a besoin, et notamment ces prochaines années, pas cette année, mais surtout l'année prochaine, en 2018, hein, il y aura le tout nouveau Roland-Garros. Donc, il faudra que ce soit rentable au niveau des droits télé. Et comme tu l'as dit, hein, le fait qu'il y ait ce genre de joueuse, même à 30 ans, ça peut permettre d'accroître les droits sur le tennis féminin, qui est peut-être un peu moins regardé que le tennis masculin. Donc c'est un choix que vont devoir faire les organisateurs avec plusieurs paramètres à prendre en compte. Et après, voilà, selon moi, sur le côté sportif, voilà, le mérite pas, puisque voilà, quand on est pris pour dopage, et ben on sait la faute qu'on a fait, on doit assumer ses erreurs. Après, au niveau extra sportif, c'est complètement autre chose.
Ah non, mais là par contre, je suis complètement du même avis que Charles. C'est pour moi, enfin, je sais pas, je vois pas à quel moment tu peux lui donner une wild card, hors coup marketing entre guillemets. Si Maria Sharapova est invitée, c'est pas pour le sportif, c'est pour les chiffres.
Oui, c'est sûr. Après, on a quand même vu à Stuttgart qu'elle n'est pas restée sans rien faire pendant 15 mois. Elle a continué à s'entraîner. Elle a quand même un excellent niveau.
Non, oui, certes, elle a continué à s'entraîner. Elle avait quand même déjà de base un niveau. Hein. C'est pas une joueuse qui s'est dopée, qui n'avait rien et qui avec le dopage a pu tout faire dans toute sa carrière. C'est le dopage, oui, c'est toujours un truc en plus, mais ça fait pas tout non plus. T'as beau te doper, quand on le voit tous les problèmes qu'il y a eu au dopage en haltérophilie, ils étaient tous dopés, mais ils arrivaient à pas finir sur le podium. Donc voilà, il y a quand même quelque chose derrière, mais dans le contexte actuel, c'est dur de se dire qu'on peut lui donner une invitation.
Elle a gagné deux fois Roland Garros hein, en 2012 et 2014, donc elle est pas non plus inconnue en France et notamment sur ce tournoi-là.
Oui, et puis en plus Sharapova, concrètement vu le niveau actuel du circuit WTA, vu aussi que Serena Williams est out pour la fin de l'année, on peut imaginer que Sharapova, si elle est invitée, ce sera une des favorites au titre final. Mais en tout cas, on suivra ça dans les prochains jours. Ton coup de cœur, Théo, on continue sur le tennis avec une énorme performance, il faut quand même la souligner, au tennis en français.
On peut le dire. Désolé pour les auditeurs qui sont pas fans de tennis, mais on va continuer à parler de la petite balle jaune. Et pour le coup, je vais parler du coup de cœur de la semaine, du coup dernière, puisque ça s'est passé dimanche. C'est la victoire de Lucas Pouille sur terre battue à Budapest. Une victoire plutôt tranquille, puisqu'il s'est imposé en un peu plus d'une heure, je crois, face au Britannique Alizaj Bejden. 6-3, 6-1, c'est son premier titre depuis septembre 2016, qu'il avait remporté en France d'ailleurs, à Metz. Et c'est pour un grand espoir du tennis français comme lui, actuellement 14e joueur mondial, je crois je suis sûr, il a conservé sa place de 14e mondial hier, à l'actualisation. Bon, c'était contre le 68e mondial, mais ça fait beaucoup plaisir, ce qui revient d'une finale ratée, la dernière qui était en février à Marseille contre Tsonga. Et là, ça paraît très loin entre le niveau du Pouille de février et celui-là qu'on voit actuellement. Donc ça fait plaisir et je pense que Pouille est capable de se mettre sur une bonne lancée et d'aller chercher d'autres titres d'ici la fin de saison.
Alors il faut quand même relativiser le tournoi parce que Lucas Pouille, il a choisi d'aller en Hongrie plutôt qu'à Barcelone où tous les cadors étaient présents.
Oui, il est parti en Hongrie en étant tête de série numéro 1 et il a affronté en finale un joueur qui sortait des qualifications. Mais quand même, depuis son niveau et ce qu'on a pu voir en février et là ce qu'on voit maintenant, il y a une réelle évolution du côté de Lucas Pouille qui peut apporter et il peut encore engranger de l'expérience et ça pourrait faire énormément de bien au tennis français sur lequel on crache mais on a un peu du mal à suivre depuis quelques années.
Et c'est que tu parlais de son classement 14e, c'est au même titre que Mladenovic actuellement, c'est leur meilleur classement. Mladenovic est 17e, c'est leur meilleur classement dans leur carrière, donc ça voilà, ça montre que le tennis français de côté de ces deux joueurs est en très bonne forme.
Lucas Pouille est allé à Budapest pour engranger de la confiance, là il a fait le plein en remportant le titre, donc c'est super pour lui. Après, il faut voir contre des cadors de la terre battue ce que ça peut donner. Là, il est allé en Hongrie. Concrètement, tête de série numéro 2, c'est Karlovic qui est 22e mondial et qui n'est quand même pas une valeur sûre sur terre battue. Il y a Fognini, tête de série numéro 3, qui peut partir en cacahuète à tout moment. Donc voilà, il faut quand même relativiser. Mais c'est une super perf quand même d'être allé jusqu'au bout de ce tournoi avec sérieux et de s'être imposé. Donc voilà, on suivra évidemment Lucas Pouille qui devrait être présent à Madrid la semaine prochaine où là on verra vraiment tous les grands joueurs du circuit s'affronter pour un tournoi qui va sentir bon Roland Garros. Hein. Madrid en général c'est quand même du très lourd avec aussi Rafael Nadal qui va tenter de remporter un tournoi encore chez lui en Espagne. Et ben on va continuer ses coups de cœur avec la Fed Cup. On voulait en parler, on a fait une émission, vous vous en souvenez, il y a 2 semaines en direct dans les studios de Rouen pour la venue de l'équipe de France de Fed Cup à Rouen. Donc ça s'est passé, ça s'est même très bien passé pour les joueuses de Yannick Noah qui se sont imposées 4-0 contre l'Espagne dans ce match de barrage. Donc les Bleus resteront dans le premier groupe mondial l'année prochaine avec, on a vu, hein, une Kristina Mladenovic, leader de l'équipe de France en l'absence de Caroline Garcia, qui a été tout simplement parfaite, hein, parfaite. Elle n'avait pas non plus un gros niveau en face, il faut aussi relativiser par rapport à ça. Mais bon, on va pas faire... les mecs pas contents, hein, messieurs, ce soir, il faut prendre ce qu'il y a à prendre.
Elle prend que 3 jeux sur ces 2 matchs, c'est aussi une performance à noter, même si le niveau en face était au-dessous du sien. Voilà, faut noter qu'elle est sérieuse et puis ça permet un petit peu aussi d'effacer toutes ces polémiques qu'on avait eues un peu avant ce tour de barrage et c'est pas plus mal.
Alors au-delà de ça, c'était quand même, on parle ici à nos auditeurs rouennais qui ont pu assister à un événement quand même international, d'ampleur internationale du côté de la Alvacheresse. C'était une réussite hein, pour les organisateurs avec sur les 2 jours une halle Vacheresse, alors pas à guichet fermé mais quand même bien remplie malgré le faible niveau de jeu espagnol. Ça a été une belle fête. On a vu Yannick Noah, les joueuses danser à la fin de la rencontre le dimanche, même avec les Espagnols. Hein, c'était une belle fête de tennis. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? On est tous issus de la région rouennaise. Quelles seront peut-être les conséquences d'un événement comme ça sur Rouen, Théo? Toi qui habites là-bas.
Moi qui suis de Rouen également, oui, non, c'est tout simplement, dans un sens, c'est extraordinaire de se dire que Rouen a pu accueillir un tour de Fed Cup. Bon, il faut relativiser, c'était un tour de barrage, c'était contre des Espagnols bien en dessous, et de face aux Françaises, pardon, qui étaient vraiment d'un niveau pas médiocre, mais les Françaises ont roulé sur l'Espagne comme c'était prévu, entre guillemets. Ça aurait pu être pire si certaines joueuses n'avaient pas décliné le fait de venir avec l'équipe de France, des fameuses polémiques. Après, est-ce qu'il y aura des retombées derrière? Est-ce que Rouen pourra accueillir d'autres événements sportifs? Faudra y voir, parce que le problème, c'est qu'à Rouen, au niveau des complexes sportifs, c'est pas à Malval qu'on va accueillir quelque chose de fantastique. Mais en tout cas, on a vu que la Halle Vacheresse pouvait accueillir des événements de tennis, et pourquoi pas, à l'avenir, si le tennis évolue sur Rouen, faire quelque chose de beaucoup plus grand.
Fin des coups de gueule, coup de cœur, plutôt des coups de cœur ce soir que des coups de gueule, et on passe tout de suite au gros dossier de la semaine avec le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine avec l'AS Saint-Étienne et la bombe lâchée par le journal L'Équipe en ce début de semaine. Donc selon Bernard Lyons, hein, le journaliste attitré à Saint-Étienne, Christophe Galtier va quitter les Verts à la fin de la saison. On savait qu'une réunion était organisée en début de semaine entre Christophe Galtier et Roland Romeillet, le président, aussi avec Bernard Cahizot. Donc est sorti, selon Bernard Lyons, que Christophe Galtier ne voulait pas faire l'année de trop. Alors, on va prendre ça avec des pincettes, puisque rien n'a été annoncé par le club. Théo, il y a même un communiqué qui est sorti ce mardi.
Alors, il y a un communiqué qui a été publié il y a quelques heures par l'AS Saint-Etienne, et comme tu l'as dit, Maxime, de toute façon, le club a toujours du mal à communiquer. Tout sort avant dans la presse du côté de Saint-Etienne, c'est toujours le club qui parle en dernier. Sauf que là, l'AS Saint-Etienne s'étonne que plusieurs médias annoncent ce jour le départ de son entraîneur Christophe Galtier, sachant qu'il lui reste un contrat qui va jusqu'en 2018, donc il lui reste juste un an, et que cette fameuse réunion qui a eu lieu mardi serait des réunions qui se tiennent de manière hebdomadaire et qui concernent la politique sportive, les stratégies à adopter et l'avenir du club. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais il faut bien rappeler que la SSE cette année a signé un partenariat avec l'équipe et que donc l'information est peut-être pas à prendre avec des pincettes, mais plutôt à prendre très sérieusement.
Rien n'est vraiment concret sur cette situation, mais on va quand même, dans ce sujet de la semaine, se projeter sur le fait que Christophe Galtier pourrait partir à la fin de la saison. On vous a posé la question sur notre compte Twitter. Selon l'équipe, Christophe Galtier donc va quitter l'AS Saint-Etienne. Est-ce la bonne décision selon vous? Vous êtes quand même 69% à nous dire oui, contre 31% qui pensent le contraire. Vous êtes 330 votants, hein, donc les supporters stéphanois se sont exprimés. Je vais vous poser la même question à vous deux. Charles, d'abord, est-ce que c'est la bonne décision de ne pas conserver Christophe Galtier à la fin de la saison?
Je pense qu'au bout de 8 saisons passées à l'AS Saint-Etienne, c'est peut-être temps pour Christophe Galtier de quitter le club et de laisser la place à un nouvel entraîneur. Alors après, on parle beaucoup, on dit beaucoup que ce serait peut-être l'année de trop. Ce qui est sûr, c'est que c'est la fin d'un cycle, puisque de toute façon, chaque entraîneur marque un cycle. L'année de trop, je ne pense pas, puisque malgré tout, la saison de l'AS Saint-Etienne, si on regarde sur la scène européenne, reste très bonne. Christophe Galtier a permis aussi de ramener des affiches de prestige à Geoffroy Guichard comme avec Manchester United. Donc c'est des matchs qui marquent l'histoire du club, surtout l'histoire actuelle. Donc je pense pas que ce soit l'année de trop. On peut en parler aussi, mais je pense que cette année, il fait face à des difficultés avec des blessures, peut-être un mercato
difficile. Non mais oui,
difficile.
C'est un mercato, c'est même il l'a dit hein, dans le Canal Football Club, il était l'invité sur Canal Plus le week-end dernier, il a dit que voilà, le recrutement n'avait pas forcément été très bon. Après, est-ce que qu'il est temps de dresser le bilan de Christophe Galtier? On n'est même pas sûr encore qu'il soit vraiment sur le départ, même si on peut l'imaginer.
Même s'il y a un bilan à dresser, de toute façon, il peut être, on peut pas le considérer comme étant négatif. Christophe Galtier à Saint-Etienne, à la base, il est venu pour sauver le club. Il l'a fait. Il a remonté le club, tout simplement. On est à 4 qualifications consécutives du côté de Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Une Coupe de la Ligue en 2013, alors que Saint-Etienne n'avait pas vu de trophée depuis plusieurs décennies. Une place de quatrième en 2014, qui est le meilleur classement de l'AS Saint-Etienne depuis bien longtemps, parce que je crois que l'AS Saint-Etienne avait dû finir cinquième en 2008, donc ça remonte. Sinon après, faut remonter encore plus loin pour revoir Saint-Etienne à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a eu la petite anecdote du trophée UNFP 2013 de meilleur entraîneur qu'il a partagé avec Carlo Ancelotti. Donc Galtier, c'est devenu un monument à Saint-Etienne. Il est arrivé en sauveur et il a transformé le club. Maintenant, on peut pas considérer que cette saison-là qui va se terminer, c'était la saison de trop. Pour moi, la saison de trop, c'est si Christophe Galtier était resté un an de plus. Parce que malheureusement, il y a un cycle qui a débuté depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est que depuis cette période-là, à Saint-Etienne, on a accumulé les mauvais choix.
En termes de recrutement, on a accumulé les mauvais choix, c'est sûr. Après, est-ce que Christophe Galtier a la main sur le recrutement? Est-ce qu'il a son mot à dire? Est-ce qu'il a une liste qu'il donne au président ou à la cellule de recrutement qui serait en train de se mettre en place? Il y a aussi ce côté-là. Après, voilà, il y a eu de grosses saisons avec de nombreux matchs. Voilà, il y a les blessures, on l'a dit.
En tout cas, messieurs, c'est quand même un coup de tonnerre dans le Forez donc pour cette semaine. En plus, l'annonce intervient avant même la fin de la saison. On sait que la situation est quand même mal embarquée pour les Verts pour aller chercher une qualification en Europa League la saison prochaine. Est-ce que c'était le bon moment pour annoncer ça? Comment est-ce que les joueurs vont réagir? Comment est-ce que le public va réagir pour les prochains matchs, Théo?
Bah, la façon dont le public va réagir, c'est que c'est un peu dur de réclamer ça, mais si le départ de Christophe Galtier est avéré, on se doute que le dernier match à domicile contre le Paris Saint-Germain risque d'être une énorme fête, et la meilleure des façons de célébrer ça pour les joueurs serait tout simplement de battre Paris, ce qui en plus pourrait officiellement offrir le titre à Monaco. Donc on espère une fin de saison qui sera plutôt bonne du côté du Forêt, car ça pourrait être sinon assez difficile à encaisser et à digérer pour les années à venir.
Bon messieurs, juste pour conclure ce sujet de la semaine, un petit pas un pronostic, mais une vision de l'avenir. Qu'est-ce que va devenir la Saint-Etienne? À qui les présidents doivent laisser les rênes de l'équipe? Est-ce que vous avez un nom qui vous sort comme ça, un successeur idéal à Christophe Galtier?
Claudio Ranieri, clairement, c'est un entraîneur qui est capable de prendre des équipes en difficulté et alors même si Saint-Etienne n'est pas en difficulté, mais de les amener au top niveau avec une motivation qui peut apporter aux joueurs. Après, au niveau des moyens, je suis pas sûr que ça rentre dans les cordes de l'AS Saint-Etienne, mais je vous avoue que je pense que Théo a également vu passer certains noms d'entraîneurs. Je vous cache pas que ça me fait un petit peu peur pour la saison prochaine.
Ça va être très difficile pour l'AS Saint-Etienne, qui va devoir faire très rapidement parce que le mercato estival va très vite avancer et on sait que la SSE a besoin de se renforcer dans quasiment tous les secteurs. Et donc maintenant, il va falloir trouver un entraîneur qui veut des joueurs, et il va falloir trouver rapidement ces joueurs. Donc j'ai pas de nom particulier, sinon on va pas faire le tour des entraîneurs libres, parce que sinon je vais vous citer du Luis Enrique, du Laurent Blanc, du Claudio Ranieri, mais on sait que et du Patrice Garande aussi, qui, on le sait, qui va quitter Caen de toute façon, ça on se fait pas de soucis, ça serait un ancien de la maison, mais ça serait un peu difficile, de voir Garande à Saint-Etienne, après ce qu'il a fait à Caen.
C'est
un nom qui reste forcément dans la liste, mais après, on a cru comprendre que c'était très divisé en interne, entre le fait de prendre un entraîneur français qui a l'habitude du championnat de Ligue 1, ou de surfer sur la vague de l'entraîneur étranger, comme par exemple avec Nantes, qui a recruté Conte Sao et qui réalise tout simplement une fin de saison magnifique du côté du FC Nantes.
Très bien messieurs, je vous coupe, hein. On va continuer cette émission. Alors beaucoup évidemment de débats autour de Christophe Galtier, de ce départ. On en reparlera dans l'émission de la semaine prochaine, comme on parlera aussi de la Ligue Europa. On n'a pas vraiment le temps de pouvoir évoquer en profondeur le duel entre l'Ajax d'Amsterdam et l'Olympique Lyonnais, qui se joue d'ailleurs en ce moment même, à l'heure où vous écoutez l'Aura des Champions sur Radio Val-d'Oran. On en parlera la semaine prochaine pour la dernière de l'Aura des Champions. Messieurs, on passe tout de suite à l'agenda.
La radio qui vous ressemble, RVR.
5 matchs à suivre en cette fin de semaine. Il y a du lourd, du très lourd dans la région encore à commencer vendredi avec Saint-Etienne justement qui reçoit Bordeaux. Saint-Etienne-Bordeaux, peut-être le match de la dernière chance pour les Verts pour essayer d'accrocher l'Europe. Il y a également de la Domino's League 2 avec un derby régional, si on peut l'appeler comme ça, entre Clermont et Bourg-en-Bresse. Et puis du basket avec la Pro B et la lutte pour le maintien qui fait toujours rage. Deux matchs très importants à domicile pour nos deux clubs de la Loire. D'abord Rouen qui va recevoir Fos-sur-Mer, deuxième du championnat, qui peut encore espérer accrocher une première place qui signifie une montée directe en Pro A. Et puis Saint-Chamond qui reçoit un autre club de la région, Aix-Maurienne, deux clubs qui vont très mal au classement. C'est d'ailleurs un match entre les deux derniers, hein, tout simplement, de Pro B. Donc ça annonce évidemment de grandes choses du côté de Saint-Chamond. Et puis un match de Pro A entre Villeurbanne et Strasbourg. Villeurbanne qui lutte toujours pour une place en play-off. Charles, quel événement ne vas-tu pas manquer en cette fin de semaine? Quel match plutôt vas-tu regarder?
Moi, ça serait plutôt du basket et je vais plutôt te dire la Pro B parce qu'on en a parlé hein, souvent cette année de Saint-Chamond qui se bat en Pro B pour se maintenir. Donc, je pense que ce sera un match. Bah, de toute façon, ça sera un match décisif, ça c'est sûr. Un match très important et un match avec beaucoup d'enjeux et d'intensité. Donc, plutôt que certains autres matchs dans cette liste qui seront peut-être moins intéressants à suivre, ce sera pour moi de la Pro B.
Bah, là, concrètement, juste pour remettre en place, même si on en parlera aussi la semaine prochaine, Saint-Chamond-Aix-Maurienne, match entre les deux derniers, qui ont tous les deux une victoire de retard sur le premier non relégable. Donc, c'est un match à 4 journées de la fin. Voilà, le perdant sera pratiquement relégué en National 1. Donc, c'est un match vraiment très important vendredi entre Saint-Chamond et Aix-Maurienne. Théo, quel match ne vas-tu pas manquer?
Alors pour moi, le match que je vais suivre absolument cette semaine, c'est de la Ligue 1, du football, entre Bordeaux qui était sur une bonne dynamique et qui a été freiné à Dijon, et l'AS Saint-Etienne qui était sur une mauvaise dynamique et qui s'est, entre guillemets, un peu relancée à Guingamp. Donc pour moi, ça va être un match pas forcément décisif, mais si l'AS Saint-Etienne arrive à gratter des points, ce sera pas facile du tout, ça peut le faire pour aller chercher quelque chose cette saison.
Très bien, du foot pour Théo, du basket pour Charles. Au foot, on va quand même suivre évidemment le match entre Clermont et Bourg-Perona en Ligue 2. Il reste 3 journées en Domino's Ligue 2. Clermont qui a 42 points, qui est normalement éloigné de la zone rouge, et puis Bourg-en-Bresse qui en a 41 mais qui lui aussi peut quand même regarder tranquillement cette fin de championnat. Donc ça pourrait être un match intéressant, mais bon, il y a quand même très peu d'enjeux à cette rencontre au stade Gabriel Montpied. Lyon-Villeurbanne qui reçoit Strasbourg, on va aussi suivre ça avec beaucoup d'intérêt étant donné que Lyon lutte vraiment pour une place en play-off lors de ces dernières journées. Et puis le match de la Chorale de Rouen en difficulté à domicile sur les dernières sorties, qui fait face à Fos-sur-Mer qui reste sur 9 défaites à l'extérieur consécutives. Donc voilà, ça va être un match qui promet beaucoup, en tout cas un alléchant programme pour cette fin de semaine pour nos auditeurs de l'Aura des Champions. Voilà, c'est la fin de notre émission. Notre émission L'Aura des Champions qui va s'arrêter la semaine prochaine, chers auditeurs. Nous recevrons pour l'occasion Lisa Bercani, celle qui nous avait fait l'honneur d'être la première invitée. Vous vous souvenez certainement au mois de novembre. Lisa Bercani qui a été draftée en WNBA. Donc voilà, c'est super pour nous et pour vous, chers auditeurs, de pouvoir l'accueillir pour cette dernière de L'Aura des Champions. Cependant, nous ne resterons pas sans rien faire pendant l'été. Nous vous préparons une grande émission hein, sur 8 semaines, une émission pleine de jeux, de rebondissements, de sport, de voilà, plein de choses, plein d'invités, plein de cadeaux à gagner. Ça sera à partir de début juin, le 7, la première, mais ça on vous en parlera plus précisément la semaine prochaine pour la dernière de L'Aura des Champions où j'espère que vous serez présents, chers chroniqueurs. Charles, merci beaucoup d'avoir fait cette émission cette semaine.
Merci à toi, merci à Théo, et puis à la semaine prochaine, et très bonne soirée à tous.
Théo, merci à toi d'avoir été là aussi cette année pour L'Aura des Champions. On espère te voir la semaine prochaine pour la dernière.
Eh ben, merci à tous, oui, c'est toujours un plaisir d'être là, et ce sera aussi un plaisir encore d'être là pour la dernière.
Voilà, ce sera certainement aussi une émission la semaine prochaine, chers auditeurs, qui sera placée sous le signe aussi de l'émotion, parce qu'on a passé quand même de très bons moments dans l'Aura des Champions cette année, avec le début en novembre, l'émission de Noël, tous les invités qui se sont relayés au micro de RVR cette année. Donc voilà, on termine ce chapitre de l'Aura des Champions, ce beau livre de l'Aura des Champions, définitivement la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio rvr.fr. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Radio Val de Rhin. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée et que la force du sport soit avec vous.
L'Aura des Champions, toute l'actualité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque mercredi à 18h30, présenté par Maxime Balade sur RVR.